Les séminaires du Collège de France.
Bonjour, bonjour à tous, merci Louise. Donc effectivement, moi, je vais vous parler d'adaptation et de flux de gènes avec des exemples sur lesquels je travaille dans le cadre de la domestication et en particulier de la domestication des pommiers et des champignons qu'on utilise pour affiner le fromage. Vous avez peut-être entendu ces derniers temps dans la presse que le camembert était en voie d'extinction. C'était un peu exagéré, mais on va voir aujourd'hui pourquoi on parle de ça. Donc vous voyez en haut dans le roquefort effectivement ce qu'on voit hein, le bleu dans les fromages bleus, c'est un champignon, une moisissure qu'on appelle Penicillium roqueforti, bien nommé. Et sur le camembert, c'est aussi un champignon, une moisissure, le Penicillium camemberti. Et on va voir qu'on les a domestiqués hein, de la même façon qu'on a domestiqué les chiens ou les chevaux, ben, on a domestiqué les moisissures pour faire des bons fromages et on a aussi domestiqué les pommiers. Et donc on va voir suivant quel processus et comment s'est fait leur adaptation et en particulier que les flux de gènes ont contribué fortement à l'adaptation de ces organismes. Donc effectivement, dans notre laboratoire et généralement, la question c'est comment les êtres vivants s'adaptent à leur environnement. Là, on voit ici par exemple une araignée qui attrape sa proie, une fourmi, et elle a évolué pour ressembler fortement à ses proies pour pouvoir s'approcher plus facilement d'elle et les capturer. Des plantes adaptées à la sécheresse, des animaux qui ressemblent à des feuilles pour se camoufler. Ça peut paraître, on peut se dire, mais comment il peut y avoir une adaptation aussi exceptionnelle? Donc l'être humain s'est demandé depuis longtemps et jusqu'à ce que Charles Darwin apporte la réponse hein, dans son livre L'origine des espèces où donc il a postulé et montré que les êtres vivants s'adaptent en se diversifiant à partir d'un même ancêtre commun. Tous les êtres vivants sur Terre descendent d'un même ancêtre commun et se sont diversifiés au cours du temps. Mais en fait, ce n'est pas principalement l'apport de Charles Darwin. Hein. Il y avait déjà à son époque l'idée que les espèces évoluaient, changeaient. Son principal apport, hein, c'était le mécanisme que l'évolution se produit par sélection naturelle. Hein. Comme Louis a expliqué, c'est vraiment important de comprendre le principe d'évolution par sélection naturelle. Comme Louise vous a dit, hein, il ne peut pas y avoir d'évolution, d'adaptation s'il n'y a pas de diversité génétique au départ. Parce que c'est le principe même de la sélection, c'est qu'il y a de la diversité au départ, de la diversité génétique et phénotypique, les individus sont différents. Donc là, ils vont être plus petits, plus bleus, plus clairs. Et le fait qu'ils sont différents, donc il y a des individus, ici les individus plus gros et plus bleus, survivent mieux pendant leur vie et font plus d'enfants. Et donc, s'ils survivent mieux et ils font plus d'enfants qui leur ressemblent, eh ben, de génération en génération, il va y avoir de plus en plus d'individus gros et de plus en plus d'individus plus bleus, nécessairement, hein, c'est par conséquence. Et c'est vraiment ça la sélection naturelle, c'est un tri parmi la variation qui existe. Donc, s'il n'y a pas de variation, il ne peut pas y avoir de sélection, il ne peut pas y avoir d'adaptation. C'est vraiment le carburant de l'évolution, la diversité. Une autre façon de représenter ça, et c'est là, comme Louise vous a montré, le cas fameux des girafes. Comme je vous ai dit, à l'époque de Darwin, il y avait déjà l'idée d'évolution, mais par exemple, Lamarck disait que l'évolution se faisait par hérédité des caractères acquis. Donc l'idée, c'était que si le coût des girafes augmente, c'est parce que pour se nourrir et arriver à atteindre ses plus hautes branches, elles étirent leur cou et qu'elles passent à leurs descendants le coût plus long qu'elles ont acquis pendant leur vie à force de s'étirer. Et donc le coût s'allonge. Et la vision de Darwin est complètement différente, hein, c'est que dès le départ, il y a de la variation, des girafes au cou plus ou moins long, et celles qui ont des coûts plus longs mangent plus et donc survivent mieux, il y a des morts, il y en a qui ne se reproduisent pas, et c'est vraiment ça qui fait l'évolution, c'est le fait qu'il y a de la variation, certaines survivent mieux et passent à leurs descendants leur caractère. Et donc ça fonctionne que si au départ il y a de la diversité. Une autre façon encore de le représenter, hein, et comme Louis vous a déjà dit, il faut qu'il y ait plusieurs caractéristiques pour que la sélection naturelle fonctionne. Il faut qu'il y ait de la variation au départ, de l'héritabilité, c'est-à-dire ici il faudrait qu'il y ait des coccinelles grises et d'autres rouges. Les grises font des enfants gris, les rouges font des enfants rouges. Il y a une différence de survie ou de nombre d'enfants. Ici, les rouges sont moins mangées parce qu'elles sont toxiques, elles sont reconnues parce qu'elles sont rouges. Et donc, les grises sont plus mangées, donc elles survivent mieux. Et donc, de génération en génération, il y a plus de rouges. Et donc, toute la question, c'est, comment dire, la variation est essentielle. Et donc, comment elle se produit, cette variation, dans les populations? Donc, il peut y avoir de la mutation. Donc, c'est-à-dire une erreur pendant la réplication de l'ADN, c'est la mauvaise base est incorporée, elle n'est pas réparée, ça fait de la variation. Donc ça, on connaît plein de cas d'adaptation par variation dans les populations. Un cas très connu en adaptation, c'est ces petites rongeurs qui peuvent avoir deux morphes plus sombres ou plus clairs et qui du coup peuvent se camoufler, les plus clairs se camouflent mieux dans un milieu clair et les plus sombres dans un milieu sombre et elles sont moins mangées quand elles sont mieux camouflées. Et cette variation en couleur est due à une seule mutation dans une protéine qui permet ou pas de transformer le pigment. Et donc ça, c'est une mutation sur un acide aminé qui fait une différence de couleur drastique. Il peut y avoir d'autres types de mutations qui font des couleurs très différentes. Par exemple, on peut y avoir une mutation dans un gène qui fait qu'il ne fonctionne plus, on n'arrive plus à faire de la mélanine, donc la couleur. Donc ça peut donner des albinos, par exemple, qui arrivent régulièrement dans les populations naturelles. Et en général, elles sont contre-sélectionnées. Mais on verra que justement, dans nos moisissures du fromage, le camembert, en fait, c'est un albinos qui a perdu sa capacité à faire des pigments. Avant, ils étaient bleus. D'autres types de mutations sur les couleurs qui peuvent arriver un peu plus facilement aussi, c'est donc un cas classique en évolution, c'est ces petits papillons. Vous voyez ici, là, il y a un papillon, mais il est très bien camouflé sur les lichens, c'est la phalène du bouleau. Et il y a deux morphes, une qui est très bien camouflée sur les silènes, sur les lichens, et une morphe noire qui est mieux camouflée quand il n'y a pas de lichen. Et en fait, c'est un cas très connu en évolution qui a été bien étudié. C'est pendant la révolution industrielle au 19e siècle en Angleterre. Les lichens ont disparu parce qu'il commençait à y avoir plein de pollution. Les lichens ne supportaient pas la pollution, ils avaient disparu. Et donc avant, il y avait cette morphe-là était majoritaire parce qu'elle arrivait à se camoufler sur les bouleaux. Et à partir de la révolution industrielle, les lichens ont disparu et cette morphe-là était mieux adaptée, elle était moins mangée et elle s'est mise à augmenter en fréquence très fortement. Et après, quand la pollution a disparu, les lichens sont revenus et cette morphe-là a réaugmenté en fréquence. C'est un exemple classique d'évolution par sélection naturelle. Et on vient récemment de comprendre quelle a été la mutation responsable de cette morphe noire. Et en fait, c'est un gène sauteur. Dans les génomes, il y a des petits fragments qui sont capables de se multiplier, qui servent à peu près à rien, sauf à s'auto-multiplier. C'est un peu comme des parasites ultimes de notre génome qui se multiplient dans les génomes. Mais de temps en temps, ils peuvent causer des mutations qui peuvent même être adaptatives, comme là. Donc, il y a un de ces gènes sauteurs qui s'est mis dans le gène responsable de la couleur de cette morphe-là, qui fait que ça ne fonctionnait plus. Et là, pour le coup, ça a donné un phénotype adaptatif. Alors, le problème de ces mutations, c'est que c'est très rare. Par exemple, les taux de changement d'un acide aminé, d'une paire de bases, c'est tous les 100 millions d'enfants. Donc, c'est très lent pour arriver à avoir de la variation et avoir la bonne mutation. Alors, les gènes sauteurs, c'est un peu plus fréquent, ça se multiplie dans les génomes, mais quand même, c'est très, on peut attendre très longtemps d'avoir la bonne mutation qui permette la bonne adaptation. Et par contre, la migration, c'est très rapide. Si on reprend nos coccinelles, on a une population de coccinelles rouges, une population de coccinelles grises. On peut dire chacune adaptée à son environnement, comme les morphes noires ou blanches, suivant si les troncs sont noirs ou blancs. Ben, si tout d'un coup, là, ça devient avantageux d'être rouge, ben, il suffit qu'il y ait un migrant qui arrive et hop, on a tout de suite la bonne mutation. On n'a pas besoin d'attendre qu'elle arrive par mutation. Donc la migration, ça accélère en fait l'évolution, ça permet d'avoir tout de suite plus de variations sur lesquelles la sélection naturelle peut agir. Donc si on revient à Charles Darwin et à son livre « L'origine des espèces », donc ça c'est la seule figure qu'il y a dans son livre, où on voit la diversification au cours du temps, de bas en haut, avec des nouvelles formes qui se génèrent à chaque pas de temps, d'autres qui disparaissent. Et c'est vraiment une figure. Ce qu'il faut comprendre dans cette figure, c'est vraiment que c'est un équilibre dynamique, la diversité des espèces, des formes, la biodiversité. C'est-à-dire qu'à chaque pas de temps, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, qui changent. Et donc, les espèces, la biodiversité, c'est pas un équilibre stable. On sait tous, comme cette bille au fond du trou, si on l'écarte un peu de son équilibre, elle y revient. Ça serait un équilibre stable. Mais la biodiversité, c'est pas non plus un équilibre instable, tel que cette bille-là. Si on l'écarte un peu, elle tombe et elle reviendra jamais en haut. La biodiversité, c'est mieux de l'avoir comme un équilibre dynamique. C'est comme quand on est à vélo, on est en équilibre parce qu'on avance. Si on arrête, on tombe. La biodiversité, c'est pareil. On ne peut pas dire on va conserver la biodiversité telle qu'elle, puisque elle persiste en fait que parce qu'elle s'adapte tout le temps de génération en génération à des nouvelles conditions, à ses pathogènes, à ses prédateurs. Et donc, si on veut conserver la biodiversité, il faut surtout maintenir en fait cet équilibre dynamique et donc cette variation et cette capacité à s'adapter. Et donc, cette capacité à s'adapter, ben, c'est d'avoir cette diversité génétique en particulier et la capacité à régénérer de la diversité et à s'adapter au cours du temps. Et donc, pour expliquer un peu tout ça et comprendre mieux, donc Darwin s'était intéressé à la domestication et en particulier à la domestication des pigeons. Et d'ailleurs, il a appelé vraiment le mécanisme de sélection naturelle d'après le mécanisme de sélection artificielle. Hein. Il a vraiment fait l'analogie et il s'est aidé de la domestication pour comprendre la sélection naturelle, parce que c'est vraiment le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on a de la variation dans l'espèce, le pigeon ramier, hein, l'espèce sauvage. Il y a des individus plus ou moins clairs, plus ou moins grands, et les sélectionneurs, ce qu'ils font, bah, ils prennent les individus qui sont, s'ils veulent faire des colombes, ils vont prendre les individus les plus clairs, ils vont les faire se reproduire entre eux, et à chaque génération, ils vont choisir les enfants les plus clairs jusqu'à obtenir une race blanche. Et la sélection naturelle ne fait pas autrement. Elle trie parmi la variation, et il y a des individus qui ont certains caractères qui se reproduisent davantage, et donc ces caractères augmentent en fréquence dans les populations. Donc on a domestiqué plein d'organismes vivants. Hein. Le premier organisme vivant qui a été domestiqué, c'était le chien, il y a 20 000 ans. Et c'est court, hein, au regard de l'évolution. Il y a seulement 20 000 ans qu'on a commencé à domestiquer le chien à partir du loup, Canis lupus. Et donc d'ailleurs, tous les races de chiens, c'est la même espèce, c'est Canis lupus en latin. Et on voit la diversité énorme de races qu'on a réussi à générer en si peu de temps, ce qui montre bien que la sélection naturelle, hein, avec des millions et millions d'années d'évolution, peut générer des formes aussi extraordinaires. On a sélectionné différents types de comportements, différents types de robes, de tailles. On a sélectionné aussi des muscles qu'il n'y a pas chez les loups, hein, quand ils ont l'air tristes comme ça, c'est vraiment des muscles spécifiques des yeux qui ont évolué sous l'effet de la sélection humaine, sûrement parce qu'on les trouvait plus attirants et on avait pitié. On a domestiqué des plantes aussi, hein, toutes les formes de choux, de choux-fleurs, de brocolis viennent du chou sauvage, où l'être humain a pris des individus qui avaient soit des fleurs plus grosses, soit des tiges plus grosses, des boutons plus gros, et a généré une variété énorme de légumes. Pareil chez la carotte, vous voyez ici une carotte sauvage, hein, avec très peu de ressources dans sa racine. Et bien, en sélectionnant les individus qui avaient les racines les plus grosses, les plus riches en ressources, on est arrivé à une variété, une grande diversité de races de carottes. Un exemple très bien étudié, c'est la domestication du maïs. Là, vous voyez une image de l'ancêtre sauvage, la théosinte. Vous voyez que les grains étaient tout petits, très durs. Ils se dispersaient tout de suite en dehors des épis. Il y avait plein de tiges différentes, et donc on a sélectionné pour une seule grande tige parce que c'était plus facile à planter, à récolter, pour des gros épis pleins de ressources qui restent sur l'épi, c'est plus facile à récolter qu'évidemment que s'ils dispersent partout dans les champs. Vous voyez ici une photo de la théosinte, hein, donc un peu l'ancêtre sauvage du maïs, et vous voyez le grain de maïs qu'on a, les épis de maïs qu'on est arrivé à sélectionner. Et donc la domestication est utilisée comme un modèle d'adaptation et de sélection. Donc vous voyez, à partir du pigeon, on sélectionne de génération en génération les plus blancs et on peut arriver à des colombes. Et donc on a sélectionné pour des formes différentes et aussi des diversifications. On a vu chez le chien, on a sélectionné plein de races différentes. Bah, chez le maïs aussi, hein. Au départ, les êtres humains ont sélectionné des épis plus gros, etc. Mais aussi plein de formes différentes. Parce qu'en fait, il y avait une sélection dans différents endroits pour une adaptation locale aux conditions climatiques locales, aux préférences locales. Donc il y a eu toute une période où il y a une grande diversification de races. Et puis une sélection plus récente, beaucoup plus forte, et là un appauvrissement énorme de la diversité génétique. On a pris un peu les variétés les plus performantes qu'on a plantées à énorme échelle sur toute la planète. Donc la domestication chez le maïs, mais chez plein d'autres organismes, plein de plantes, il y a une période d'énorme diversification avec plein de races différentes adaptées à des conditions locales, et puis récemment une sélection très forte qui homogénéise énormément les variétés à l'échelle de la planète. Par exemple, les différentes races de maïs, et je suis sûre que vous en connaissez qu'une, on n'en mange plus qu'une, alors qu'il y a plein de races différentes adaptées à des conditions différentes. Et on a vu, le problème, c'est que sans diversité, il ne peut plus y avoir d'adaptation. Donc si on perd toute cette richesse de diversité qu'on avait sélectionnée pendant des siècles, pour la plus performante actuellement, le problème, c'est que si, à long terme, on perd énormément de capacité à adapter à des nouveaux conditions climatiques ou à des nouveaux pathogènes si on oublie toute cette diversité-là. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on s'est servi de cette diversité pour des adaptations locales et des hybridations entre différentes races pour permettre une adaptation plus rapide. Par exemple, donc les races de maïs aux États-Unis qui sont plantées, il y a une adaptation locale, c'est-à-dire par exemple, elles n'ont pas le même moment de floraison, c'est adapté aux conditions locales de climat, c'est plus avantageux de fleurir plus ou moins tôt ou plus tard. Donc on voit par exemple le nombre de jours qu'il faut pour fleurir dans le nord, dans le centre ou dans le sud, c'est des temps différents. Et les races de maïs qui ont été importées en Europe, ça a été des hybridations entre différentes races pour avoir les périodes de floraison optimales aux endroits locaux en Europe. Donc on s'est servi de toute cette diversité qui avait été sélectionnée en Amérique, le maïs est originaire d'Amérique, et par hybridation, on a pris les meilleures variétés pour les conditions locales de culture en Europe. Donc il y a eu une adaptation par hybridation, par flux de gènes. Et même aux États-Unis, c'était aussi une adaptation par flux de gènes. Vous voyez ici, dans un gène de floraison, on voit une ligne par lignée de maïs, et les couleurs, c'est des variations dans les paires de bases, dans les bases de l'ADN. Et donc on voit qu'entre les maïs du Nord et les maïs tropicaux, il y a des séquences différentes, elles ont des patterns différents. Et dans les maïs du Corn Belt, on voit qu'il y a certaines lignées qui ont une partie de leur gène qui ressemble au maïs du Nord et l'autre partie de leur gène qui ressemble au maïs tropicaux. Donc il y a eu des mélanges génétiques qui ont permis une adaptation, et en particulier à la période de floraison optimale dans le Corn Belt. De la même façon, il y a eu des flux de gènes pour une adaptation aux hautes altitudes. Pousser en haute altitude pour des plantes, ça demande des adaptations spécifiques parce qu'il y a beaucoup de vent qui assèche les plantes. Donc il faut se protéger contre plus d'UV, plus de sécheresse, plus de vent, plus froid. Et donc on voit ici, je vais présenter pas mal de ces types de graphes-là. Donc vous avez chaque ligne verticale, c'est un individu. Ici, vous avez plusieurs individus de maïs, et tout ça, c'est des théocintes, des individus de théocintes. Et la couleur représente le groupe génétique auquel ils ont été assignés. Donc, on a maintenant des logiciels assez puissants qui nous permettent, on génotype, on séquence les génomes de plein de maïs et de plein de théocintes, et on dit, fais-moi deux groupes génétiques qui me séparent, par exemple, les théocintes et les maïs. Donc là, tous les individus en jaune, ils ont un génotype maïs, un fond génétique maïs, et tous les individus en mauve, là, ils ressemblent plus à de la théocinte. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que... Et donc, on a des individus là qui sont principalement maïs, mais qui ont un peu de gènes de théocinte. Ils sont principalement jaunes, mais ils ont aussi un peu de mauve. Et là, c'est des théocintes qui sont principalement avec du génotype théocinte, mais on voit qu'ils ont un peu de gènes maïs. Et donc on voit que ça, c'est des traces de mélange génétique, d'hybridation. Et donc effectivement, les maïs qu'on a plantés en haute altitude au Mexique, ils se sont adaptés par des flux de gènes depuis la théocinte, qui, elle, était déjà adaptée par des millions de générations de survie dans ces hauts plateaux au Mexique. Et donc dans ces cultures, il y a eu une adaptation par flux de gènes depuis la théosinte, hein, post-domestication, qui permet, donc, comme on a vu, une adaptation plus rapide. Et on voit ici, hein, la quantité d'introgression, c'est-à-dire la quantité de gènes, hein, qu'ils ont récupéré de la théosinte en fonction de l'altitude où le maïs a été planté. On voit qu'il y a une belle corrélation, hein. Plus il est planté haut le maïs, plus il a incorporé de gènes de théosinte qui lui permettent de mieux pousser dans ces conditions-là. Et on peut regarder aussi sur des phénotypes, hein, les poils sur les feuilles par exemple qui permettent de résister à la sécheresse en haute altitude, ça limite l'évaporation. Ben, on voit que les maïs qui ont des traces d'introgression de gènes de théosinte, ils ont beaucoup plus de poils sur leurs feuilles que ceux qui n'ont pas de traces d'introgression. Donc ces flux de gènes depuis la théosinte ont permis une adaptation à l'altitude, en particulier d'avoir plus de poils sur les feuilles. Les maïs qui ont plus de gènes de théosinte, ils ont aussi plus pigmenté, ce qui permet de résister aussi aux UV qui sont plus forts à haute altitude. Et les plantes, elles sont aussi plus grandes quand elles ont plus d'introgression. Donc il y a eu des flux de gènes post-domestication de la théosinte au maïs qui permettent une meilleure adaptation, et on le voit sur les phénotypes. Et inversement, il y a eu aussi des flux de gènes du maïs vers la théosinte sauvage qui lui a permis une adaptation. Donc la théosinte, elle était originaire d'Amérique centrale et les êtres humains l'ont domestiquée là-bas. Mais en fait, elle est aussi envahissante en Europe maintenant, hein, avec tous les transports de marchandises, de terres. Il y a beaucoup d'espèces exotiques qui se retrouvent dans des nouveaux continents. Et la théosinte s'est retrouvée en Europe, où en fait elle est un peu problématique dans les champs. C'est un peu une mauvaise herbe qui gêne la culture du maïs. Et donc là, pareil, hein, vous avez une ligne verticale par individu. Là, vous avez les maïs en bleu. Et là, vous avez différentes sous-espèces de théosinte. Et là, vous avez les théosintes européennes qui sont envahissantes dans les champs. Et vous voyez qu'elles sont, elles ont un peu de bleu, comme le maïs, et moins de jaune, typique des théosintes mexicanas. Et donc, il y a eu des flux de gènes du maïs vers la théosinte et qui sont liés à des allèles de précocité de floraison et de résistance aux herbicides. Donc, inversement, hein, il y a eu des flux de gènes du maïs vers les théosintes sauvages et qui ont permis une adaptation rapide aux conditions locales de climatique et de résistance aux herbicides qui sont répandus dans les champs. Et donc on voit l'importance de l'hybridation et des flux de gènes pour une adaptation rapide. Et donc ça, c'est toute cette étude des plantes domestiquées et cultivées a été un peu fondée par Nikolaï Vavilov. Donc c'était un Russe qui a étudié un peu les plantes cultivées. Il a beaucoup voyagé dans le monde et découvert les centres de domestication des plantes, qui étaient des centres de diversité, là où il y avait le plus de diversité des plantes sauvages. Et il insistait vraiment sur, dans le processus de domestication, justement, l'importance des échanges génétiques pour pouvoir continuer à améliorer, à faire de l'amélioration variétale. Il disait vraiment, ce qui permet une meilleure amélioration variétale, adaptation, c'est d'avoir plusieurs centres de domestication, plusieurs fermiers qui chacun sélectionne son maïs, par exemple, adapté à ses conditions locales, ce qui permet d'avoir globalement une grande diversité, puisque vous avez plusieurs centres avec différentes variétés. Et puis, de temps en temps, des échanges génétiques qui permettent que s'il y a un nouvel allèle très avantageux qui apparaît quelque part, bah, il puisse se disperser par migration et qu'on n'ait pas à attendre une nouvelle mutation pour récupérer ce caractère avantageux. Alors, la domestication n'a pas apporté que des caractères avantageux aux organismes domestiqués. Souvent, il y a ce qu'on appelle la dégénérescence, à la fois due à des goulets d'étranglement, hein, comme vous a expliqué Louis. Si on part des plantes sauvages qui ont énormément de diversité et qu'on sélectionne quelques individus qui ont des caractères avantageux, ben, globalement, il y aura moins de diversité dans les plantes domestiquées que dans les plantes sauvages. Et par hasard, des fois, on peut aussi amener des caractères qui sont désavantageux, ou on va vraiment sélectionner pour des caractères qui sont désavantageux dans la nature. Par exemple, ici, vous voyez la banane sauvage qui a des grosses graines dont on ne voulait pas pour manger. Donc on a sélectionné des grosses bananes, plein de fruits, mais du coup, pas beaucoup de graines. Et donc, elles sont plus capables de se reproduire dans la nature. Mais aussi, vraiment des caractères désavantageux. Par exemple, les bulldogs, on a sélectionné une grosse tête, une tête toute plate, mais ils sont même plus capables, des fois, de respirer correctement. Et ils sont plus capables de se reproduire tout seuls. On est obligé de les inséminer pour les faire se reproduire. Donc, le fait d'avoir sélectionné très fort, on a perdu beaucoup de diversité et des fois, par autostop un peu, on a pris des mutations qui étaient désavantageuses. Et donc, il y a de la dégénérescence due à la domestication. Et des fois, on a, en domestiquant, en prenant une petite partie de la diversité génétique qui existait au départ, on a oublié certains allèles importants, comme par exemple les gènes de résistance aux maladies. Hein, chez les pommes, vous avez des champignons qui les attaquent. Ici, la tablure du pommier, due à un champignon. C'est pour ça qu'on répand énormément de fongicides sur les pommiers. C'est les cultures où il y a le plus de fongicides et de pesticides, parce que les pommes attaquées sont moins vendables. Ben, il y a plein de gènes de résistance qui existent dans les populations sauvages, qu'on n'a pas récupérés dans les populations domestiquées. Et des fois, ben, on croise les populations domestiquées avec les populations sauvages pour essayer de récupérer ces gènes de résistance. Donc encore une fois, une adaptation plus rapide par flux de gènes et par hybridation. Donc je vais vous parler des travaux plus spécifiquement qu'on a fait dans notre laboratoire sur les pommiers et les... J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Sur les pommiers et les champignons du fromage. Donc je vais vous parler d'abord des pommiers et puis du Penicillium roqueforti, la moisissure bleue qu'on trouve dans le roquefort, et le Penicillium camemberti, la moisissure blanche qu'on trouve sur les bris et les camemberts. Donc sur la domestication du pommier, alors les pommiers, vous connaissez tous le pommier cultivé qu'on appelle Malus domestica. Alors il y a plein de pommiers sauvages. Alors il y a eu pendant longtemps des débats sur combien d'espèces sauvages il y a chez les pommiers. Alors il y a plusieurs espèces avec des noms latins qui avaient été décrites. Le Malus sylvestris en Europe. Le Malus orientalis au Moyen-Orient, le Malus siversi en Asie et Malus baccata encore plus à l'est. Et alors le Malus siversi fait des assez grosses pommes qui peuvent le pommier asiatique hein, qui peuvent même ressembler vraiment à des pommes qu'on peut acheter de maïs cultivé. Et il fait des énormes forêts qui sont vraiment que des pommiers. Hein, c'est pas comme le pommier sauvage européen où on trouve un pommier par-ci par-là en forêt. Le pommier asiatique, c'est des forêts entières que de pommiers avec des énormes fruits. Et donc c'est Vavilov hein, qui avait été étudié un des premiers ces forêts de pommiers. Et donc pendant un moment, on pensait qu'en fait il n'y avait pas vraiment eu de domestication du pommier, que c'était juste on avait récupéré le pommier sauvage asiatique qui faisait déjà des grosses pommes et qu'on l'avait amené en Europe du temps des Romains. D'ailleurs, les premières études qui avaient été faites avec quelques gènes séquencés trouvaient effectivement que le pommier asiatique et le pommier cultivé étaient assez mélangés, qu'on n'arrivait pas bien à les distinguer. Alors pourquoi ils avaient déjà des grosses pommes, les pommiers asiatiques? C'est parce qu'ils étaient mangés par des gros mammifères qui avaient sélectionné pour des gros fruits qui étaient plus attractifs et qui permettaient aux pommiers de disperser leurs graines. Et donc l'idée c'était que le pommier asiatique avait été ramené par les routes de la soie par les Romains en Europe et juste planté comme ça. Et donc on a essayé de quand même voir un peu plus en détail s'il n'y avait pas eu pu y avoir des hybridations le long de la route de la soie et en particulier avec le pommier sauvage européen. Donc à l'époque on n'avait pas séquencé les génomes complets, on avait étudié avec des marqueurs microsatellites. Donc c'est des répétitions comme ça dans les génomes avec un grand nombre de fois le même motif très court. Et du coup c'est assez variable parce que des fois pendant la réplication de l'ADN il y a des erreurs et ça rajoute, ça enlève une répétition. Donc c'est des zones du génome qui sont très variables. On voit ici des allèles différents. Et surtout ils sont neutres. Hein, parce que quand on veut reconstruire l'histoire des populations et pas seulement l'histoire de l'adaptation, c'est important d'avoir des marqueurs neutres, pas soumis à sélection. Hein. Par exemple, si on voulait reconstruire l'histoire des populations humaines à travers la planète en regardant la couleur de la peau, ben on se tromperait, hein, parce que la couleur de la peau est sous forte sélection. Vous voyez ici la couleur de la peau en fonction de la latitude. Il y a une sélection pour des couleurs plus sombres quand il y a plus d'UV et des couleurs plus claires quand il y a moins d'UV, hein, pour se protéger avec la mélanine contre les UV. Aux basses latitudes et au contraire quand il n'y a pas assez de lumière on ne synthétise pas assez de vitamine D et du coup il y a une sélection pour des peaux plus claires alors que si on regarde avec des marqueurs neutres on voit bien que l'histoire est complètement différente. On est sorti d'Afrique et on a colonisé les globes ce qu'on ne peut pas retracer, l'histoire de ces populations, si on regarde des marqueurs sélectionnés. Donc pour comprendre l'histoire des populations, la migration des populations, on regarde des marqueurs neutres. Donc on a fait de la même façon, je vous ai montré tout à l'heure pour les maïs, hein, avec les marqueurs génétiques, on a fait des groupes génétiques de ces différents pommiers. Encore une fois, vous avez une ligne verticale par individu et une couleur par groupe génétique. Et donc on voit qu'on avait très joliment un groupe génétique par espèce latine, donc on était assez content. Il y avait bien le Malus orientalis existe bien et est bien différencié du Malus siversi, du Malus sylvestris. On a bien nos différentes espèces de pommiers sauvages et le pommier domestique en vert est bien génétiquement différencié et y compris différencié de Malus sylvestri. Donc c'est pas comme si on avait juste ramené le pommier asiatique en Europe. Le pommier cultivé est bien différencié du pommier asiatique. Donc on a bien eu une domestication et une différenciation des populations. Et alors quand on regarde un peu plus précisément par paire d'espèces, donc à chaque fois là vous avez le pommier cultivé en vert et une espèce de pommier sauvage en rouge et différentes espèces de pommiers sauvages. Donc si on regarde, si on compare le pommier cultivé avec le pommier du Caucase, le pommier cultivé en Europe et le pommier du Caucase, on voit deux groupes très différenciés. Pareil si on regarde en Asie ou en Sibérie. Et par contre, si on regarde en Europe, on voit que dans le pommier cultivé, on voit plein de traces de rouge qui correspondent au pommier sauvage européen. Et donc on voit qu'on a eu plein de flux de gènes, plein d'hybridations, et on a importé plein de gènes dans le pommier cultivé qui venaient du pommier sauvage européen. Donc l'histoire n'était pas si simple. Et donc on a fait un peu des modèles et on a regardé quel était le scénario le plus probable de domestication. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye plein de scénarios, soit domestication seulement du pommier sauvage asiatique, soit domestication seulement du pommier sauvage européen, ou hybridation, etc. Et on regarde quel scénario explique le mieux nos données génétiques. Et c'était ce scénario-là qui expliquait le mieux nos données génétiques. C'est-à-dire qu'il y avait une domestication du pommier cultivé depuis effectivement le pommier asiatique, mais avec ensuite des flux de gènes secondaires du pommier sauvage européen qui avait importé beaucoup d'allèles adaptatifs dans le pommier cultivé. Donc notre pommier cultivé européen est un résultat de mélange génétique entre le pommier sauvage asiatique et le pommier sauvage européen secondairement. Donc ce qui s'est passé, hein, donc on a bien ramené, les Romains ont bien ramené le Malus sylvestri en Europe le long des routes de la soie, mais une fois qu'on l'a cultivé en Europe, il y a eu plein d'hybridations et incorporation d'agènes d'adaptation aux conditions locales. Alors on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ici, qu'est-ce qui s'est passé avec le Malus orientalis et qu'est-ce qui est cultivé dans cette région-là? Donc on est allé essayer de regarder, donc il y a aussi un pommier sauvage au Proche-Orient, Malus orientalis, qui fait des toutes petites pommes, un peu comme le pommier sauvage européen, hein, qui fait des toutes petites pommes qui ne sont pas mangeables comme ça directement par nous. Et donc, ce qu'on a trouvé, donc ici, encore une fois, hein, vous avez un individu par ligne verticale et un groupe génétique par couleur. Et donc ici, en jaune, vous avez le pommier cultivé européen. Et ici, le pommier cultivé en Arménie et en Iran. Et on voit que ce n'est pas du tout les mêmes groupes génétiques, hein. C'est un autre pommier cultivé. Il y a eu une domestication indépendante du pommier dans ces régions-là. Et ici, on a les Malus orientalis, c'est un plein de populations sauvages différentes. Et donc, pareil, on a essayé de reconstruire le scénario de domestication. Donc, encore une fois, le pommier cultivé européen vient du Malus sylvestri, le pommier asiatique avec des flux de gènes du pommier européen, alors que le pommier qui est cultivé en Iran, par exemple, vient du pommier Malus orientalis local, et il a été domestiqué, et il y a même eu deux domestications indépendantes locales qui donnent des groupes génétiques, et surtout il y a eu aussi plein de flux de gènes. Hein, on voit encore une fois dans les pommiers cultivés, c'est pas des couleurs complètes, on voit des flux de gènes et dans les deux sens d'ailleurs, entre les pommiers sauvages et les pommiers cultivés. Alors, on a regardé aussi un peu certains caractères, ce que pouvaient retracer les mutations responsables de certains caractères intéressants et en particulier la grosseur de la pomme. Et donc, avec des collaborateurs, on a fait des mutants et on a pu vraiment montrer encore une fois que la grosseur de la pomme a été aussi due à l'insertion d'un gène sauteur dans une région régulatrice de la formation de la fleur. Et donc, encore une fois, c'était une adaptation par un gène sauteur dans une région régulatrice qui permet aussi une adaptation plus rapide que juste des mutations par paire de base. Mais cette mutation, elle n'était pas faite dans le pommier cultivé. Elle était déjà présente dans le pommier sauvage asiatique, comme on a vu, hein, et qui a déjà des grosses pommes. Et de la même façon, certaines couleurs, là pour le coup liées à la domestication, comme la couleur rouge, étaient aussi dues à l'insertion d'un de ces gènes sauteurs dans une région régulatrice d'un gène responsable pour la couleur. Alors après, on a regardé, donc on a vu qu'il y avait eu beaucoup de flux de gènes des pommiers sauvages vers les pommiers cultivés et qui ont permis une adaptation. Et on a regardé inversement s'il y avait eu des flux de gènes des pommiers cultivés vers les pommiers sauvages européens dans nos forêts. Et on a trouvé beaucoup de flux de gènes. Encore une fois, ici, vous avez une barre verticale par individu. En jaune, le groupe génétique qui correspond aux pommiers sauvages européens. Et en noir ici, le pommier sauvage, le pommier cultivé. Et donc on voit qu'il y a un peu de jaune dans le noir, mais il y a aussi beaucoup de noir dans le jaune. Donc il y a aussi beaucoup de flux de gènes du pommier cultivé vers le pommier sauvage, et dans toute la France et dans toutes les forêts. Mais on a pu, et aussi dans les graines qui sont vendues, hein, donc on a aussi analysé des graines qui étaient vendues comme étant du pommier vraiment sauvage, par des semenciers, et en fait c'était toutes au moins des hybrides, voire carrément des pommiers cultivés. Il n'y avait aucune graine qui était vendue qui était que des pommiers sauvages purs, à part les graines vendues par l'ONF directement, qui étaient vraiment du pommier sauvage mais qui avaient une base génétique très réduite. Donc il y a beaucoup de flux de gènes du pommier cultivé vers le pommier domestique, et donc on peut imaginer que ça met un peu en danger l'espèce sauvage, hein, parce qu'ils vont perdre son intégrité génétique. Il incorpore beaucoup des caractères du pommier cultivé. Et on a pu essayer de corréler à ça des facteurs anthropiques, et on a pu voir effectivement qu'il y avait d'autant plus de flux de gènes dans les forêts du pommier cultivé vers le pommier sauvage qui avait proche des grandes surfaces de pommiers cultivés, ce qui est assez logique, hein, mais encore faut-il la démontrer. Donc plus il y avait des hectares de vergers à proximité, plus il y avait de l'introgression des flux de gènes dans les forêts des pommiers cultivés vers les pommiers sauvages, et donc ce qui menace l'intégrité génétique des pommiers sauvages. On a regardé si cette introgression avait un effet, effectivement, hein, sur, par exemple, le temps de germination des pommiers. Donc on a comparé en serre le temps de germination des graines et le temps d'arriver à une plantule. Et on voit que le pommier sauvage mettait beaucoup plus de temps à croître. Il y avait une croissance plus rapide. Et les hybrides étaient intermédiaires entre les deux. Donc ça leur donnait un avantage. Ils poussaient plus vite. Et ce qui renforce le fait que les introgressions se répandent dans les forêts. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on introgresse aussi des gènes de résistance contre les maladies, donc en particulier contre ce champignon Venturia unicolis qui cause la maladie de la tablure du pommier. On avait fait des croisements et on avait incorporé un gène de résistance de ce pommier ornemental dans le pommier cultivé, et qui a très bien marché. Pendant des années, il n'y avait plus de tablure du pommier, d'ailleurs qui avait exceptionnellement bien marché, parce que souvent les pathogènes évoluent très vite et ils contournent très vite les résistances. Et là, pendant plus de 10 ans, il n'y avait aucune maladie, jusqu'à un moment où le pathogène a quand même réussi à contourner la maladie. Et de façon très intéressante, il a contourné la maladie en lui-même incorporant le gène du champignon du pommier ornemental dans son génome. Donc là, ce pommier ornemental avait un gène de résistance et son propre champignon avait le gène qui lui permet de contourner la résistance. On a introgressé ici le gène de résistance, et bien, le champignon il a fait pareil, il a incorporé par croisement le gène de virulence du champignon du pommier ornemental qui lui a permis d'infecter à nouveau le pommier cultivé. Et on a fait ça plein de fois. On a introgressé plein de gènes de résistance dans les pommiers. À chaque fois, le pathogène a trouvé la solution. Il a évolué un nouveau gène de virulence. Il est devenu de plus en plus agressif. Et ça, ça pose problème sur les populations de pommiers sauvages, puisqu'il récupère aussi ces champignons hyper agressifs du pommier cultivé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a essayé d'inoculer expérimentalement les champignons soit des pommiers sauvages, soit des pommiers cultivés, sur les pommiers sauvages ou sur les pommiers cultivés. Donc en haut, vous avez le pommier cultivé et en bas, vous avez le pommier sauvage asiatique. Et ici, vous avez les populations de champignons qu'on trouve sur la population sauvage, qu'on trouve sur les pommiers cultivés ou des hybrides. Et donc on voit que sur le pommier cultivé, il n'y a que son propre champignon qui est capable de l'infecter. Le champignon sauvage n'est pas capable d'infecter le pommier cultivé, ce qui est normal, hein, on a mis plein de gènes de résistance. Par contre, sur le pommier sauvage, ben, les souches agricoles, elles sont bien capables d'infecter les pommiers sauvages et elles sont beaucoup plus agressives que son propre champignon. Donc on a en quelque sorte pestifié les champignons. À force de mettre plein de gènes de résistance dans le pommier, il est devenu de plus en plus virulent, de plus en plus agressif, y compris sur les pommiers sauvages. Donc les populations de pommiers sauvages, hein, elles sont menacées par la déforestation, par des flux de gènes depuis le pommier cultivé et par des pathogènes pestifiés, eux-mêmes par des flux de gènes entre pathogènes. Donc ces flux de gènes, hein, ont un côté bénéfique qui permet une adaptation plus rapide, mais y compris une pestification et des flux de gènes indésirables parfois. Donc pour conclure sur la domestication du pommier, donc c'est une domestication par hybridation, par contribution entre plusieurs espèces sauvages, et mais qui a mené aussi à des pathogènes pestifiés, aussi hybrides et plus agressifs. Maintenant, je vais vous parler des champignons du fromage. Et on va voir qu'il y a aussi une domestication, et par aussi des flux qui ont aussi été facilités par les flux de gènes. Alors les champignons, un petit rappel, hein, c'est un groupe frère des animaux, hein, c'est pas du tout des plantes, c'est beaucoup plus proche des animaux que des plantes. Vous avez ici un peu l'arbre de la vie avec deux groupes, deux domaines de bactéries, les bactéries et les archébactéries. Ici vous avez les eucaryotes, ici vous avez les plantes, ici vous avez les animaux, et ici les champignons, hein, on forme les animaux et les champignons forment le groupe des opisthocontes. C'est des contrairement à le fait qu'ils puissent pas bouger ils sont beaucoup plus proches des animaux et ils partagent certains caractères en commun d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup de champignons qui ont été domestiqués. Hein, alors les champignons peuvent pousser sous deux types de morphes, soit levure unicellulaire, soit des filaments qui donnent des moisissures. Donc on a domestiqué beaucoup de levures pour fermenter le vin, la bière, mais aussi des moisissures qui permettent de fermenter, d'affiner les saucissons, les fromages et plein d'autres produits à travers le monde. Et on utilise aussi les champignons et on les a aussi améliorés génétiquement pour produire certaines molécules qui nous intéressent, y compris les antibiotiques. Donc la première antibiotique qui a été découverte, hein, c'est la pénicilline, qui a été isolée d'un champignon Penicillium. Donc c'est un peu par hasard, Alexander Fleming, il a observé dans sa boîte de pétri. Donc lui, il étudiait le staphylocoque, une bactérie, et il a vu qu'autour d'un champignon contaminant, ces bactéries, elles n'arrivaient pas à pousser. Et donc, au lieu de jeter sa boîte, il s'est demandé pourquoi. Et parce que le champignon produit une toxine, la pénicilline, pour exclure ses compétiteurs, hein, dans la nature. Il produit vraiment un poison pour tuer les bactéries autour. Et donc, il a isolé cette toxine, et on s'en est servi pour guérir des maladies. Et puis après, on a découvert comme ça plein d'autres antibiotiques. Donc on peut reconstruire un peu l'histoire de la domestication, par exemple de la levure Saccharomyces cerevisiae, une des levures les plus utilisées pour la fermentation de plein de produits. Et on voit qu'il y a pareil des groupes génétiques différents entre les différents usages. Là, on a un groupe pour le pain, un groupe pour les fromages, un groupe pour le vin, pour le rhum. Alors on a mis très longtemps à découvrir où vivait Saccharomyces cerevisiae dans la nature. Hein, souvent, pendant longtemps, on la connaissait qu'en laboratoire. Et assez récemment, on l'a découvert dans la sève des arbres, en fait, et principalement des chênes. Et donc là, vous avez deux populations sauvages différentes. Et donc, il y a eu plein de flux de gènes qui ont permis aussi une meilleure adaptation plus rapide de la levure Saccharomyces cerevisiae. Un exemple, c'est elle a récupéré un gène d'une autre levure qui lui permet, donc les levures qui fermentent le vin Saccharomyces cerevisiae ont récupéré des gènes par transfert horizontaux, hein, pas par reproduction sexuée, ils ont récupéré directement le gène et qui permet une meilleure utilisation de l'azote et de la fermentation. On crée aussi nous-mêmes des hybrides, hein, pour certains types de fermentation, par exemple pour ce qu'on appelle la fermentation à froid, les lager beer, on a généré des hybrides entre deux espèces de levures et qui permettent une meilleure fermentation au froid. On voit ici les deux types de génomes qui sont mélangés et qui permettent donc une adaptation. Un exemple très récent d'un laboratoire de Nice, c'est des traces d'introgression. Donc là, vous avez le génome de Saccharomyces cerevisiae. Et là, la quantité d'introgression depuis une autre levure, Saccharomyces paradoxus, dans différents types de levures. Et donc, par exemple, quand on fait de l'extraction de l'huile d'olive, il y a un résidu dans lequel il y a des levures qui dégradent certains produits. Et il y a une forte introgression de paradoxus dans ses révisiers et qui lui permet de résister, qui est vraiment adaptatif, qui lui permet une résistance contre plusieurs produits toxiques. On voit ici une autre introgression dans les levures utilisées pour la tequila, pareil, une adaptation par introgression, par flux de gènes. Donc voilà, je vais vous parler maintenant de nos travaux sur les pénicilliums du fromage. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des lignées très éloignées. Donc là, vous avez plein d'espèces de pénicilliums, un peu la généalogie des pénicilliums. On a plein de pénicilliums qui décomposent les fruits, qui sont sur les fruits pourris. On a ici le pénicillium qui fait la pénicilline. Et là, on a le pénicillium camemberti d'un camembert, et là, le pénicillium roqueforti. Et on voit qu'ils sont très éloignés dans la phylogénie. Hein. Leur divergence date de 30 millions d'années, donc c'est comme aussi lointain que nous du singe araignée. Et pourtant, ils ont tous les deux été domestiqués pour faire du fromage. Donc, c'est deux cas indépendants de domestication et d'adaptation au même milieu. Donc, c'est vraiment intéressant de voir est-ce qu'ils se sont adaptés de la même façon pour faire du bon fromage. Et donc, si on regarde le pénicillium roqueforti, donc, qui fait ses spores bleus là, dans le fromage, on peut se demander qu'est-ce qui a été sélectionné. Comment est-ce qu'on s'est mis à mettre une moisissure dans le fromage? Donc, probablement au départ c'était un peu involontaire, et puis on s'est aperçu que ça permettait de conserver le lait, ça permet de le transformer et qu'il soit plus conservable que juste du lait qui tourne très vite, et en plus ça donnait un peu du bon goût et des bons arômes. Et donc petit à petit les gens se sont mis à cultiver le champignon pour après l'inoculer, ensemencer le lait. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient cuire du pain de seigle en le brûlant à l'extérieur pour pas qu'il y ait d'autres contaminants qui viennent. Et ils inoculaient à l'intérieur leur pénicillium roqueforti qui faisait moisir le pain, et après ils prenaient le pain moisi et le remettaient dans le lait pour refaire du fromage. Ils avaient la poudre comme ça de pain moisi. Alors maintenant on les cultive sur boîte de pétri, hein, en façon très stérile, et on achète des solutions spores pour ensemencer le lait pour éviter tout d'accident alimentaire, d'hylisteria, etc. Mais donc pendant longtemps il y a eu une sélection vraiment où les gens reprenaient les spores qui avaient fait le meilleur fromage. Ils le remettaient dans leur pain et réinoculaient le lait, etc. Donc une vraie sélection. Donc on peut se demander quels caractères ont été sélectionnés. Est-ce qu'on a sélectionné pour faire des fromages plus bleus, avec un meilleur arôme, un meilleur goût, qui métabolisait plus vite les sucres et les lipides? Est-ce qu'on a sélectionné pour ou contre des toxines? Donc je vous ai dit, les pénicilliums font plein de toxines. Est-ce qu'on a plutôt évité qu'ils en fassent, ou au contraire, est-ce que les toxines, on les a sélectionnées pour éviter d'avoir des contaminants sur nos fromages? Est-ce qu'on a sélectionné pour une tolérance au sel, hein, parce que pour éviter ces contaminants, justement, on sale beaucoup les fromages. Donc on a essayé d'étudier tous ces caractères. Donc on a comparé d'abord les génomes de pénicillium camemberti, roqueforti et de plein d'autres pénicilliums. Et la première chose très frappante, c'est qu'en fait, il y avait eu des transferts horizontaux de gènes entre ces deux espèces. Il y avait des endroits dans le génome qui était présent que chez les pénicilliums du fromage, complètement absent chez les autres espèces, et quand ils étaient présents chez les pénicilliums du fromage, ils étaient complètement identiques. Alors que je vous ai dit que ça fait 30 millions d'années qu'ils sont séparés, et là, sur 250 gènes côte à côte, 100% identiques. Et en plus, ils étaient à différents endroits du génome. Donc la seule explication possible, c'était qu'il s'était passé des gènes dans le fromage. En fait, les champignons, ils font des filaments comme ça, qui sont capables de fusionner entre eux. Donc les flux de gènes peuvent être assez peut-être faciles, se passer des gènes, hein, il suffit de fusionner des filaments et il peut y avoir un peu plus facilement que chez les animaux peut-être des transferts de gènes. Et donc ils se sont passés des gènes qui sont présents que chez les champignons du fromage et qui sont justement impliqués dans les métabolismes du lactose et du galactose et dans des gènes qui sont impliqués aussi dans la compétition avec les autres organismes. Donc il y a eu des transferts de gènes très récents à l'échelle humaine pour que ce soit 100% identique, et impliqué dans l'adaptation. Donc encore une fois, hein, les flux de gènes ont accéléré l'adaptation. Et en plus, on vient de découvrir très récemment que ces transferts de gènes, en fait, ils se sont faits par ce qu'on a appelé des vaisseaux spatiaux. En fait, on vient de découvrir dans les génomes de champignons qu'il y a des énormes vaisseaux spatiaux, et donc, c'est-à-dire, ils ont un capitaine, un petit gène qui les dirige, et une fin, et à l'intérieur, ils ont plein de gènes qui sont différents. Et le capitaine, il est capable de bouger les gènes dans le génome et entre espèces. Et donc, c'est un peu comme des éléments énormes mobiles, des cargos, qui bougent les gènes au sein du génome et entre espèces. Et donc, c'est ces vaisseaux-là, ces cargos, qui ont bougé les gènes entre le pénicillium roqueforti et le pénicillium camemberti. Et on est en train de découvrir de plus en plus de ces transferts par cargo, par exemple entre pathogènes du blé. Pareil, il y a eu ces gènes cargo qui ont transporté des toxines entre deux champignons très éloignés pathogènes du blé qui ont permis à un pathogène de mieux infecter une certaine variété de blé. Donc après, on s'est un peu intéressé à la domestication du Penicillium roqueforti. Donc tous les fromages bleus du monde entier, hein, c'est la même espèce, le Penicillium roqueforti. Et donc on a voulu voir est-ce que c'était des variétés différentes, des adaptations différentes. Et en plus, donc on trouve le Penicillium roqueforti pas seulement dans les fromages, mais aussi en contaminants alimentaires, hein, le pain moisi, des yaourts moisis, de l'ensilage moisi aussi, et des fois du bois d'ouvrage moisi, c'est du Penicillium roqueforti. Donc on a voulu savoir si ces populations-là, est-ce que c'était des populations férales échappées des fromages à l'extérieur, ou au contraire, est-ce que ça c'était un peu la population sauvage ancestrale dont on avait domestiqué les souches du fromage? Donc on a séquenché des génomes pour voir ça, et en fait on a vu que c'était ni l'un ni l'autre de cas. On a quatre groupes génétiques, deux populations du fromage, une population de contaminants alimentaires et une population de contaminants d'ensilage. Et c'est ni l'un ni l'autre qui a donné l'autre, hein, c'est des populations adaptées à différents milieux. Et il n'y a qu'une population qui a ces cargos, ces transferts horizontaux. C'est une lignée clonale en fait qu'on trouve dans tous les fromages bleus du monde entier, sauf à Roquefort. Donc il y a deux populations de Penicillium roqueforti, une qu'on trouve à Roquefort, qui a un peu de diversité génétique, et une population qui n'a aucune diversité génétique, qui a ses cargos, ses gènes transférés horizontalement, et c'est un individu qu'on trouve dans tous les fromages bleus du monde entier, autre que Roquefort AOP. Et donc en fait, c'est comme s'il y avait eu une super souche hyper performante grâce à ces transferts horizontaux de gènes qui s'est répandue sur toute la planète à toute vitesse parce qu'elle était hyper performante. Et il n'y a qu'à Roquefort où l'AOP est obligée d'utiliser des souches locales et où on a gardé un peu de diversité et des souches qui n'ont pas ces cargos. Et donc les deux populations d'ensilage et de contaminants alimentaires, c'est ni des populations férales échappées, ni la population ancestrale. C'est des populations qui sont adaptées à ces ressources alimentaires énormes en grande quantité. Donc l'histoire de la domestication, hein. Il y a eu deux domestications indépendantes pour faire des fromages, une qu'on retrouve encore à Roquefort avec un peu de diversité, même s'il y a eu quand même un goulet d'étranglement, et une qui a eu ces transferts horizontaux par cargo et avec un seul individu qui persiste. Et on a ces deux populations qui se sont séparées plus récemment avec plus de diversité et un peu de flux de gènes entre contaminants alimentaires et contaminants d'ensilage. Donc on a voulu voir, est-ce qu'il y avait aussi une évolution, est-ce que ces populations du fromage, elles faisaient du meilleur fromage, est-ce qu'il y avait vraiment eu une domestication? Donc on a déjà regardé la production de toxines, trois types de toxines, dont certaines sont vraiment très vraiment toxiques. Et donc ce qu'on a vu, c'est que en fait, les populations du fromage, elles produisent pratiquement aucune toxine, et elles ont en fait des mutations dans leur gène de production de toxines qui fait que vraiment elles sont incapables d'en produire. Donc peut-être on a vraiment sélectionné des souches qui produisaient plus de toxines, alors soit parce que ça nous rendait malades, soit simplement c'était plus utile dans le fromage, et puis ça a dégénéré et elles ont disparu. On a regardé aussi si les souches du fromage faisaient plus de bleu, et effectivement, hein, vous voyez ici la quantité de bleu, on a fait des fromages de type Roquefort avec différents types de populations. Et ben, les populations d'ensilage, elles avaient des fromages beaucoup moins bleus que les populations du fromage. Donc on a sûrement sélectionné pour pousser mieux dans le fromage et faire plus de spores bleus. On a regardé la quantité d'arômes de volatiles, et en particulier le 2-heptanol qui est typique de l'arôme des Roquefort. Et vous voyez que les contaminants alimentaires et l'ensilage en produisent pratiquement aucun. Donc l'ensilage n'avait vraiment aucun goût, aucune odeur. Le fromage fait avec les contaminants alimentaires sentait plutôt la serpillière moisie. Il n'y a que les populations du fromage, Roquefort et non Roquefort, qui faisaient le 2-heptanol typique de l'arôme du fromage. Donc on a vraiment sélectionné ces moisissures pour faire des bons arômes. On a regardé aussi leur croissance sur fromage et sur un milieu plus pauvre. Et donc, vous voyez que la population, la souche qui est dans tous les fromages autres que Roquefort, elle pousse plus vite sur fromage, mais moins vite sur milieu pauvre. Donc effectivement, elle a l'air d'être une souche sélectionnée plus fortement pour pousser plus vite sur fromage. On a aussi regardé si elles étaient capables d'exclure les compétiteurs, les contaminants sur les fromages. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pousser un lit de pénicillium Roqueforti, et puis on a inoculé après un contaminant, ici un pénicillium blanc, pour bien le voir. Et on voit que sur un lit Roquefort, il arrive assez bien à pousser, alors que sur un lit de la souche non Roquefort hyper performante, il arrive beaucoup moins à pousser. Donc on a l'air effectivement de l'avoir sélectionné pour exclure des compétiteurs. Et par contre, donc la population Roquefort, elle poussait beaucoup plus, elle faisait beaucoup plus de spores sur le pain que les autres populations. Donc là, c'est un peu comme si on avait à Roquefort conservé un peu la population, la première population domestiquée qu'on avait cultivée longtemps sur du pain, et donc quelque part qu'on avait sélectionné pour bien pousser sur du pain. Donc pour résumer l'histoire de la domestication, hein, avec ces deux populations indépendantes de champignons du fromage, et on a vraiment, donc je ne vous ai pas tout montré, hein, mais on a sélectionné pour faire des fromages plus bleus, plus tolérants au sel, qui produisent moins de toxines, qui excluent mieux des compétiteurs et qui poussent plus vite sur fromage et qui font des arômes plus agréables. Et pour le coup, la population Roquefort fait plus d'arômes plus diversifiés que la souche utilisée pour les autres fromages. Mais ils ont aussi dégénéré à force de sélectionner, donc on a multiplié cette moisissure sur du pain de façon végétative pendant très longtemps. Il ne fait plus de reproduction sexuée. Donc ici, on a réussi à induire quand même la reproduction sexuée sur boîte de pétri. On a mis ici des souches différentes à la frontière. Ils ont produit les structures sexuées, ils ont fait des méioses et produit des descendants. Les souches du fromage sont beaucoup moins capables de faire, sont beaucoup moins fertiles que les souches des contaminants alimentaires et de l'ensilage. Donc ils ont l'air d'avoir perdu de la fertilité à force de les reproduire de façon clonale pendant des générations. Donc c'est un bon exemple de domestication, hein, avec plein de caractères adaptatifs qui ont été sélectionnés, en partie par flux de gènes, mais aussi de la dégénérescence à cause de goulots d'étranglement et de caractères qui ne sont plus utilisés, et en particulier une moindre capacité à pousser sur milieu pauvre et une baisse de fertilité. Alors récemment, on a trouvé dans une mine en Autriche, une mine de sel, on a trouvé des fœtus humains, des excréments, qui dataient de l'âge de fer et qui avaient été très bien conservés parce que dans cet environnement froid, plein de sel, c'était très propice à la conservation. Et on a trouvé du pénicillium Roqueforti et des Saccharomyces cerevisiae dans les excréments qui montrent qu'ils mangeaient peut-être déjà du fromage bleu et du vin ou du pain fermenté par ces levures. Donc ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on a vu deux populations, une autre façon de le représenter, hein, les populations ici qui ne sont pas dans le Roquefort, du fromage non Roquefort, du fromage Roquefort, les contaminants. Et récemment, on a découvert une autre population dans les fromages, dans ces fromages de Termignon, qui sont spécifiques des Alpes. Il n'y a que 4 fermes dans les Alpes qui font ce fromage-là. Et en fait, ils n'ensemencent pas avec la moisissure, elle vient spontanément de l'environnement. On voit ici hein, le fromage bleu ici, il n'est pas toujours d'ailleurs dans le fromage, et on ne l'ensemence pas. Et effectivement, ce qu'on a découvert, c'est que c'était une troisième population de fromage, de champignons du fromage, différents des deux autres, de Roquefort et non Roquefort, et avec plus de diversité génétique. Donc c'est peut-être un peu la population ancestrale domestiquée, surtout que... En fait, elle a ses cargos, ses gènes cargos, elle les a incorporés, donc c'est probablement des populations domestiquées pour faire du fromage, mais qui viennent spontanément des environnements. Et donc là, on a un peu une représentation en deux dimensions de plein de caractères de ces populations-là. On a résumé plein de caractères, les volatiles, les productions de toxines, la croissance, la couleur. Et on voit que les souches de Termignon, elles sont un peu intermédiaires entre les souches de l'ensilage et les contaminants alimentaires et les souches du Roquefort. Donc ça a l'air d'être un peu peut-être les premières étapes de domestication du Penicillium roqueforti. Et donc si on résume l'histoire de la domestication du Penicillium roqueforti, hein, donc on a eu une domestication probablement avec encore plein de diversité, déjà les cargos, les transferts de gènes, et donc qui est conservé dans les fromages de Termignon avec une grande diversité. Et puis plus récemment, une très forte sélection, hein, vraiment comme pour le maïs, avec un seul individu sélectionné pour tous les fromages qui ne sont pas du Roquefort, et une lignée dans le Roquefort. Et on a regardé aussi la capacité de certains caractères des ensilages et des contaminants, et eux, ils étaient beaucoup plus capables de dégrader des sucres de plantes, comme la pectine, le xylose, le sucrose. Et donc effectivement, probablement, c'est des champignons qui sont adaptés à dégrader plutôt des produits végétaux. Et d'ailleurs, on pense que la population vraiment ancestrale des Penicillium roqueforti était plutôt ça profite de plantes qui dégradent les plantes, qui se nourrissent en tuant les plantes. Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de régénérer de la diversité dans Penicillium roqueforti en croisant toutes ces populations. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc même si les populations du fromage ont perdu un peu de fertilité, elles en ont conservé quand même, donc on arrive à générer des descendants. Et donc on regarde par exemple pour la lipolyse, hein, la capacité à dégrader les gras. On voit ici le taux de lipolyse des descendants en fonction du taux de lipolyse des parents. Donc ici par exemple, on a les deux parents, orange, ensilage et roquefort, les valeurs, et on voit que les descendants ont toute une gamme de taux de lipolyse, et pareil pour différents croisements. Donc on arrive à générer une gamme de diversité, autant pour la couleur, la lipolyse, la protéolyse, et donc on peut régénérer de la diversité encore chez le Penicillium roqueforti. Et donc on va maintenant parler de la domestication du Penicillium camemberti. Donc on trouve dans les briers, qui fait la brie des croûtes et des camemberts, et donc qui est blanc immaculé, hein, mais en fait c'est assez récent que les briers et les camemberts soient blancs. On voit ici sur une photo de 1953 un brie qui est bleu, et là sur une peinture 1888, le brie est bleu, hein, c'était un champignon bleu-vert d'ailleurs, et ça c'est un mutant albinos incapable de produire de la mélanine, hein, et qui d'ailleurs survivrait pas longtemps dans la nature sans pigment, et d'ailleurs ça induit directement probablement une baisse de fertilité, et donc il y a vraiment eu une sélection. Et on a des traces écrites, hein, c'est un chercheur qui a isolé depuis ce Penicillium biformé gris un mutant albinos, et comme ça avait l'air plus appétissant, plus cotonneux, ça s'est très vite répandu pour l'utilisation de tous les bris et les camemberts. Donc on a séquencé aussi des génomes donc du Penicillium camemberti et de deux variétés du Penicillium camemberti et du Penicillium biformé, donc le plus proche cousin qui est un peu gris, qu'on trouve dans d'autres fromages comme des tomes, des chèvres et aussi un cousin plus éloigné qu'on trouve plutôt dans des contaminants alimentaires encore ou à l'extérieur. Et donc il n'y a que Penicillium camemberti qui a ses cargos, ses gènes, ses transferts horizontaux, et on voit qu'il n'y a aucune diversité génétique, hein, les branches sont très courtes. Tous les souches utilisées pour du brie et les camemberts, c'est le même individu répliqué clonalement depuis qu'on l'a isolé. Donc ils ont ces cargos, ces gènes, ces transférés horizontalement, sauf une souche qu'on a récupérée du Muséum d'Histoire Naturelle qui avait été isolée en 1905, et elle n'avait pas ces cargos, ces gènes transférés, les mêmes que Penicillium roqueforti. Donc ces transferts horizontaux ont l'air de s'être produits après 1905. Alors chez Penicillium biformé, donc, il y avait quelques souches qui avaient ces gènes transférés et d'autres pas. Et donc, si on résume un peu l'histoire de la domestication, donc on a une espèce vraiment sauvage qu'on trouve en, pareil, en saprophyte, dans les environnements extérieurs. On a eu une première étape de domestication qui nous a donné le pénicillium biformé qu'on utilise déjà dans des fromages et qui est un peu gris. Et plus récemment, on a sélectionné un seul individu, un mutant, incapable de produire la mélanine et qui a donné deux variétés, le pénicillium camemberti et casei fulvum. Et les transferts horizontaux sont produits dans cette lignée-là après 1905. Donc on a regardé pareil, est-ce qu'il y avait des caractères différents pour faire du fromage entre ces différentes espèces. Donc on a regardé le caractère blanc. Donc vous voyez ici, on a cultivé sur boîte de pétri le pénicillium camemberti et le pénicillium biformé. On voit le biformé, il est vraiment tout ras, très gris, alors que le pénicillium camemberti, il fait trop cotonneux et blanc. Et là, effectivement, on l'a mesuré avec l'opacité de la colonie qui mesure à la fois le caractère blanc et épais. Et donc on voit chez le Fuscoclocum, il y a beaucoup de variabilité et il est assez noir. Le pénicillium biformé, il est un peu plus clair et il y a encore la variabilité. Et la variété camemberti, ils sont tous très blancs, très opaques. On a regardé aussi la croissance sur fromage salé, sur un milieu malt assez riche et sur un milieu très pauvre en nutriments. Et un peu en parallèle de Penicillium roqueforti, on trouve de la même façon que les champignons du fromage, en particulier Penicillium camemberti, ils poussent beaucoup plus vite sur fromage, mais beaucoup moins vite sur milieu pauvre. Donc il a l'air d'avoir été sélectionné pour pousser plus vite sur le fromage, mais il a perdu sa capacité à pousser quand le milieu est pauvre. Alors que le Penicillium biformé et Fuscoglocum, ils poussent un peu pareil partout. On a regardé aussi encore la capacité à exclure des contaminants. Donc là, on voit un pénicillium roqueforti qui pousse sur une boîte de pétri tout seul. Ou alors, quand on a mis un tapis de pénicillium roqueforti de camemberti, on voit qu'il pousse beaucoup moins, biformé, pardon, et avec un camemberti, il n'arrive plus du tout à pousser. Donc on a l'air d'avoir encore sélectionné la capacité à exclure des contaminants. On a regardé aussi des toxines. Et de la même façon, on regarde la production de toxines ici, entre Fuscoglocum, biformé, camemberti, ça a l'air de décroître. Donc, on a vraiment l'idée d'une domestication progressive depuis Fuscoglocum qui a donné premièrement biformé et après camemberti, avec une sélection de plus en plus forte pour être de plus en plus blanc, de plus en plus compétitif, poussant mieux sur fromage et en particulier aidé par ces échanges génétiques. Et donc, encore une fois, donc il y a eu une période où on a sélectionné, mais gardé beaucoup de diversité et de variétés différentes. Et puis récemment, une sélection très forte qui a fait qu'on a perdu énormément de diversité. Et du coup, donc le pétillum camemberti est produit moins de spores que ses cousins. Alors, c'est ces spores qu'on utilise pour ensemencer dans le lait. Et pour le coup, on n'arrive plus du tout à le faire de se reproduire de façon sexuée. Il a complètement perdu sa fertilité. Donc, encore une fois, l'histoire de la domestication. Donc, il a perdu. Donc, on a sélectionné progressivement une compétition, une domestication en plusieurs étapes, et avec plusieurs caractères adaptatifs et d'autres de dégénérescence, comme une baisse de fertilité. Et alors, la perte de toxines, ça peut être soit on l'a directement sélectionné, soit il l'a perdu parce que c'était plus utile dans le fromage. Et alors en fait, pour faire des camemberts, on n'utilise pas que Penicillium roqueforti, camemberti, on utilise aussi Geotrichum candidum, un autre champignon qui est très éloigné. Vous avez ici des arbres des champignons avec différents champignons qu'on utilise dans différents fromages. Ici, il y a la levure Saccharomyces. Et donc on voit que le Geotrichum, il est très proche de la levure Saccharomyces, très loin du Penicillium camemberti. C'est même pas un pénicillium, il est encore plus loin. Et pourtant, il a exactement le même phénotype, le même aspect que le pénicillium camemberti. Donc on a l'air d'avoir sélectionné indépendamment, dans deux lignées très éloignées, des champignons qui font des moisissures, qui font des filaments blancs et très cotonneux. Et donc, pour finir, on a aussi étudié des pénicilliums qui fermentent les saucissons. Et encore une fois, donc on a deux espèces très éloignées, le pénicillium naljuvense et le pénicillium salami, qu'on utilise, donc qui, pareil, permet de fermenter, de conserver le saucisson, de le protéger en faisant une croûte. Et, donc eux, ils sont encore plus éloignés que les deux pénicilliums camemberti et roqueforti. Ils ont divergé il y a à peu près 73 millions d'années, donc comme nous de la souris. Et donc, pareil, hein, c'est des cas d'adaptation convergente au même milieu. Donc, on s'est demandé ce qu'on avait sélectionné de la même façon. Et donc, encore une fois, hein, donc on voit la généalogie ici du Penicillium salami et du Penicillium nalgiovense. Et donc, on voit ici, il n'y a pratiquement aucune diversité génétique. Hein, c'est un râteau. Tous les individus sont pratiquement pareils. Alors là, on a les deux types sexuels quand même, contrairement au Penicillium roqueforti. Et de la même façon, chez nalgiovense et salami. Donc, encore une fois, il y a l'air d'avoir une sélection dans chaque espèce très drastique, qui fait qu'on a perdu toute la diversité génétique. Et encore une fois, il y a eu une adaptation par transfert de gènes, par ces cargos. Hein, vous voyez ici le génome d'analgiovense et de salami, et là, leur pourcentage d'identité. Donc le pourcentage d'identité rose, c'est ce qu'on attend, étant donné leur divergence de 73 millions d'années. Et vous voyez que là, en violet, c'est des fragments qui sont 100% identiques. C'est juste impossible, sauf s'ils viennent de se transférer les gènes. Et effectivement, on trouve des traces de cargo. Encore une fois, ils se sont adaptés au même milieu en se transférant des gènes pour une adaptation rapide. Et donc, on voit ici la phylogénie des pénicilliums, la généalogie des pénicilliums, avec ici les transferts horizontaux de Penicillium salami, de nalgiovense. Et on les retrouve aussi dans Penicillium camemberti en grande partie, qu'on trouve, qu'on inocule aussi des fois dans le saucisson. Donc, ce n'est pas les mêmes cargos que se sont transférés Penicillium roqueforti et Penicillium camemberti, mais Penicillium camemberti a aussi incorporé les mêmes gènes cargo transférés entre salami et nalgiovense pour l'adaptation au saucisson, parce qu'on utilise aussi camemberti pour le saucisson. Et de la même façon que le Penicillium camemberti, on a sélectionné pour les souches du saucisson sont plus claires chez toutes les espèces que les souches qu'on trouve dans d'autres environnements et que d'autres espèces. Donc encore une fois, on a sélectionné pour des souches plus claires parce que c'était plus appétissant. On a sélectionné aussi sur la lipolyse et la protélyse. Là, vous avez l'espèce nalgiovense et salami. Et vous avez en rouge les souches du saucisson et en bleu les souches qu'on trouve dans d'autres environnements et en vert d'autres espèces. Et on voit que systématiquement, pour tous les caractères et dans toutes les espèces, les souches du saucisson sont en dessous. Elles dégradent les lipides et les protéines moins vite que les souches d'autres environnements et leurs cousins, probablement pour ne pas dégrader trop vite les saucissons, hein, que ça reste quand même un peu ferme. Donc en conclusion, sur les adaptations des champignons utilisés en ferment, hein, donc il y a eu plusieurs adaptations indépendantes des pénicilliums au fromage et aux charcuteries, et c'était une adaptation convergente. On retrouve à chaque fois les mêmes caractères sélectionnés sur la croissance, la compétition, les pertes de toxines, la perte de la reproduction sexuée, et une adaptation qui s'est faite rapidement par transfert de gènes et en particulier par ces cargos qui bougent entre génomes, et à chaque fois une perte de diversité et une dégénérescence. Et l'AOP, en fait, a pu, autant chez Penicillium roqueforti, l'AOP a protégé la diversité génétique en obligeant d'utiliser les souches locales. Autant chez Penicillium camemberti, en fait, on ne peut pas appeler ça camembert si on n'utilise pas cette souche albinos. Et donc là, pour le coup, l'AOP oblige à utiliser un seul clone et aucune diversité. Et donc, si on revient à ce que disait Vavilov, hein, qu'il est vraiment important d'avoir plein de diversité et des échanges génétiques, donc on voit effectivement, lors de la domestication, l'adaptation s'est faite par plein d'échanges génétiques et par création de plein de variétés génétiques. Mais donc, il y a le danger de l'homogénéisation croissante des espèces qu'on cultive, autant les espèces végétales que les moisissures et les ferments, et que sans diversité génétique, on ne peut pas continuer à s'adapter. Et donc là, encore une fois, hein, la biodiversité, la vie, c'est un équilibre dynamique et qu'il faut conserver cet aspect dynamique du vivant, cette diversité génétique et ces échanges génétiques. Et donc, si vous avez intérêt, il y a un livre qui vient de sortir et qui en parle de la biodiversité en général et des champignons du fromage en particulier. Et je peux vous passer un petit film de 2 minutes qui résume un peu nos études sur les champignons du fromage et la baisse de diversité.
La sélection artificielle a joué un rôle fondamental dans le développement des civilisations humaines en fournissant une grande abondance de nourriture.
On n'entend pas.
Sous l'effet de la sélection humaine, les plantes cultivées ont connu des changements radicaux au fil de l'évolution, par exemple le maïs, dont les grains sont plus gros et contiennent plus de nutriments. Les moisissures jouent un rôle crucial dans la production de certains de nos aliments préférés. Les fromages bleus, par exemple, sont fabriqués à partir de la moisissure Penicillium roqueforti. Des populations de cette moisissure bleue ont été identifiées.
J'arrive plus. Bon, vous pourrez le retrouver avec le QR code en ligne sur le film. Ouf.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.